Donc maintenant, je vais passer ensuite, à la suite du questionnaire. Donc il y a changement. Une question de Florence. Il m'est de plus en plus dur de discuter avec les autres. Tout me paraît futile, inintéressant. Est-ce que cet état va durer? Oui. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la 3D, ça fait plus partie de ton monde. Donc ça va durer un certain temps jusqu'à temps que tu trouves, on va dire, à te brancher sur les nouvelles énergies de 4D tout simplement. Et là, tu verras que tu pourras avoir des discussions intéressantes et que les choses te sembleront moins futiles. Mais futiles dans le sens que tu seras dedans, mais tu t'en foutras quand même. C'est-à-dire que tu ne donneras pas l'importance que tu pouvais donner en 3D. Hein? Donc ce qui veut dire que si tu penses vouloir faire un truc et puis que ça se fait pas, ça se fait pas, puis c'est tout, puis t'en feras pas un plat, quoi. Voilà. Alors, une question d'Anna aussi là-dessus. Depuis quelques mois, je n'arrive plus à faire de projet pour l'avenir. Je me sépare en grande quantité de mes affaires au profit des bonnes œuvres et j'arrête du jour au lendemain de consommer des choses que j'appréciais sans sensation de manque. Pourtant, je ne suis pas déprimée, pas heureuse non plus. Je suis dans une sorte de flottement perpétuel. J'ai l'impression que tout est vain et qu'au-delà d'une certaine date, il n'y aura plus rien. Est-ce ma petite voix qui me prépare physiquement et mentalement à l'arrivée de l'ascension? C'est pas qu'elle te prépare, t'es déjà dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, quand nous sommes dans une zone de flottement, ça veut dire qu'on se dégage, ça veut dire que la montgolfière commence à décoller et qu'on va être de moins en moins collé à la Terre, c'est-à-dire que les liens se coupent et puis qu'on va se laisser flotter, oui, c'est ça, flotter dans l'air et il y aura des courants qui nous emmèneront et qui nous regrouperont en fonction de nos affinités et des besoins de chacun. Hein, comme dirait l'autre, c'est comme si c'était une nouvelle cité qui se construisait mais dans les airs. Simplement, effectivement, au début, quand on décolle, on se dit, tiens, ça bouge, c'est bizarre parce que ça bougeait pas avant. Et puis, voilà quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une coupure. Donc, c'est une coupure entre effectivement un monde de matériel, on va dire, et un monde qui va être intérieur. Hein, parce qu'il sera toujours matériel, mais l'intérieur sera mis en avant avant l'extérieur. Ce qui, aujourd'hui, est totalement, bien sûr, l'inverse. Alors, une question sur le gardien du seuil de Régis. Depuis petit, je fais des paralysies du sommeil et j'ai très bien appris à les maîtriser. Depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 22. Ainsi que mes rêves lucides et j'effectue une projection astrale sans le vouloir très récemment. Ma question porte sur le gardien du seuil auquel nous serons bientôt tous confrontés. Si j'ai bien compris, en projection astrale et surtout en paralysie du sommeil, si on se laisse envahir par la peur, celle-ci se matérialise. Idem pour toute autre émotion. Le calme revient quand on expérimente la paix intérieure. Est-ce cela le gardien du seuil? Les manifestations de ce dernier seront-elles uniquement relatives à cette vie ou comprendront nos vies antérieures? Alors, le gardien du seuil, je crois avoir écrit un article là-dessus, c'est pas un gardien, entre guillemets, hein, c'est tout simplement comme un sas. C'est, vous savez, comme quand vous rentrez dans un hôtel, vous avez souvent une double porte, vous franchissez une première porte, et ensuite il faut en franchir une deuxième. Ou, comme dans les supermarchés, vous avez des portes, vous savez, qui tournent. Bien, ça s'appelle des sas. Et c'est ça, c'est simplement pour éviter qu'on va dire qu'une partie du bâtiment soit complètement ouverte à l'autre partie. Imaginez que s'il n'y avait qu'une porte, à chaque fois que vous ouvrez la porte, la chaleur par exemple du magasin partirait dehors et la froidure de dehors rentrerait dedans. Avec un sas, eh bien, c'est limité au volume du sas. Donc quand vous ouvrez la première porte, l'air froid va s'engouffrer bien sûr à l'intérieur du sas, mais sera arrêté par la deuxième porte. Donc, quand vous toucherez la deuxième porte, la première porte se sera refermée. Donc, ça veut dire que comme ça, eh bien, il y a une limitation, entre guillemets, d'échange entre deux mondes. Par exemple, le monde chauffé et le monde extérieur qui n'est pas chauffé. Donc, eh bien, là, c'est la même chose. Ça sera le gardien du seuil se situe au niveau, bien sûr, de chaque, comment dire, pyramide spatio-temporelle. C'est-à-dire que quand tu passeras du moteur de 3D, 4D à la 5D, 6D, tu passes dans un autre espace-temps. Et donc là, il y a un gardien du seuil, effectivement, entre la 4D et la 5D. Donc pour l'instant, toutes les choses qui se matérialisent autour de toi, que tes voyages astro et tout le bordel, restent des choses qui sont apparentées à la 3D, 4D. Donc dans cet espace-temps. Mais quand tu passeras dans le sas, pour aller en 5D, 6D. Là, c'est vraiment, je dirais, un examen de passage, comme si, par exemple, il y avait un détecteur, on va dire, un détecteur qui envoie des rayons, par exemple, on va, je vais dire des conneries, mais par exemple des rayons UV pour tuer toutes les bactéries que tu amènerais de dehors, afin que bah, dedans, tu sois propre et que tu n'amènes pas de saloperies de dehors. Eh bien, c'est un petit peu ça le gardien du seuil, c'est-à-dire que c'est une couche interdimensionnelle qui fait que quand tu vas la traverser, la moindre chose égotique qui sera en toi, c'est-à-dire tout ce qui appartiendra à ce monde de 3D, 4D, que tu n'auras pas d'une certaine manière complètement nettoyé, eh bien, il t'en fera prendre conscience. Et donc, c'est à partir de là que tu choisiras. Tu diras, ah là 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 là, j'ai toujours ce... Par exemple, je prends un truc simple parce que ça va être le plus gros du bataillon qui va se faire avoir à ce niveau-là. Eh bien, quand vous êtes en 3D, bah, vous allez vous faire avoir rapidement parce que vous êtes par exemple quelqu'un qui dit, bon, bah, j'aurais aimé connaître une blonde bien foutue, mignonne, gentille, pipoconne, etc. Et puis, bah, forcément, comme vous ne l'avez pas eu dans cette vie, bah, quand vous allez, disons qu'entre guillemets, quand le monde de 3D, 4D qu'on connaît actuellement sur Terre, va passer à autre chose, c'est-à-dire que quand la Terre va passer définitivement en 5D, eh ben, on va être confronté, bien sûr, à passer dans le sas. Et donc, ce monsieur, ben, comme dirait l'autre, quand il va être dans le sas, eh bien, la première chose, si c'est vraiment un désir qui lui collait à la peau, eh bien, la première chose qu'il va avoir, c'est effectivement, il va avoir une blonde pulpeuse, enfin, tout ce qu'il demandait, il va l'avoir, mais exactement, sinon, encore mieux. Et c'est là qu'il fera un choix. Il dira, bon, bah écoute, puisque c'est le nirvana, moi j'y vais, quoi. Et là, bah, en suivant ça, bah, il n'ira pas en 5D, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est encore une projection de l'ego qui dit je suis dans le manque, et parce que je ne l'avais pas, et parce que je la désirais, et que je la veux toujours, bah, à ce moment-là, j'y vais. Et il va se retrouver en 3D unifié, peut-être avec une blonde, j'en sais rien, mais ça, c'est pas mon problème. Mais globalement, il va suivre la musique. Mais vous pouvez aussi avoir ça à d'autres niveaux par rapport à d'autres chakras. Par exemple, vous aviez envie de devenir le chef de service de votre société. Eh bien, comme par hasard, vous allez être mis dans cette même situation, on va vous mettre une promotion sous le nez, quoi, pour devenir le chef de service, quoi. Et donc, si effectivement vous y tenez à cœur, vous dites j'ai rêvé ça toute ma vie, j'ai bossé pendant 35 ans pour avoir cette place, merci. Direction 3D unifiée. Par exemple, après on peut passer en 4D, c'est-à-dire moi je suis spirituel, je parle aux anges, et puis voilà, je cause beaucoup avec Michael, et puis Métatron c'est mes potes, vous inquiétez pas, hein. Vous allez voir Michael et vous allez voir Métatron, puis ils vont vous dire, mais écoute, viens, allez, viens boire une bière, on a quelque chose, on va causer au bar, quoi. Et ben, vous les suivrez, et puis direction 3D unifié. Ça va être aussi simple que ça, c'est-à-dire que tout ce qui était un état de manque, tout ce qui était un désir de votre part, mais un désir égotique, eh bien, quelque part, vous fera rater l'examen. Donc, comme dirait l'autre, quand nous allons passer cet examen de SAS, hein, qui est donc, on va dire, le vidage d'un espace-temps pour aller dans un autre espace-temps, eh bien, nous allons tous être confrontés à ça. Donc, quelque part, il faut rester zen et il faut être pleinement conscient que, bien sûr, on n'aura pas nettoyé tout nos trucs, tous nos manques, tous nos désirs, ça c'est sûr, parce que quelqu'un qui dit j'ai plus de désir, j'ai plus rien, je le reconnaîtrais, puisque ça m'est arrivé dans ma vie, je peux vous dire que c'est une situation très difficile à vivre. Eh bien, vous en aurez. Eh bien, si vous dites, ah oui, elle est belle, t'es mignonne, dis donc, ah vraiment, tu me plais, t'es une belle blonde, tout, mais non, pas maintenant, merci. Après, se pointera l'offre de service, hein, pour devenir directeur de service. Vous direz, non, bah, c'est bien, mais non, plus maintenant, non, ça ne m'intéresse plus, non, vraiment, non. Et puis, quand se présentera Jésus et Métatron, ou Michael et Métatron, pour venir boire une bière, tu diras, les gars, c'est sympa, mais je ne bois plus de bière. Non, ça ne me dit plus rien, non, non. Et donc, en fait, dans la réalité, c'est que, comme vous êtes pleinement conscient que tout ceci ne sont que des projections illusoires, des projections de votre mental ego, eh bien, vous passerez tout simplement le sas. C'est-à-dire, vous serez décontaminé, pas simplement, je dirais, la conscience que vous avez eue à avoir que ce n'était que des choses illusoires qui appartenaient à l'ancien monde. Voilà, c'est ça le gardien du sommeil. Hein? Donc c'est un sas de compression, décompression entre deux mondes. Hein? Donc ce n'est pas un individu, ce n'est pas quelqu'un qui juge, et il n'y aura pas de jugement dernier, rien du tout, mais c'est comme un jugement dernier. Hein? C'est-à-dire que vous allez être en face de vous-même, et donc de tout ce qui vous coinçait, entre guillemets, et qui vous reste encore sur la patate, d'une certaine manière. Donc voilà pourquoi dans les 50 ans à venir, eh bien, nous avons encore un certain nombre de choses à travailler d'une certaine manière. Hein? Mais moi je pense personnellement qu'on passera progressivement, c'est-à-dire que ça ne sera pas, voilà, en 2050 ou 2060 pile, allez hop, tout le monde dehors et on fait le tri. Je pense qu'à partir de 2013, il commencera à y avoir du tri. C'est-à-dire que toute personne capable de passer en 5D6D passera en 5D6D. Voilà. Mais quand il sera capable de passer, il ne va pas falloir se suicider pour ça. C'est-à-dire que vous allez suivre votre rythme, votre vie en cette 4D, entre guillemets, hein, et vous allez continuer à rayonner votre présence, en fait. Et donc, arrive un moment, eh bien, si votre corps physique vient vous lâcher d'une certaine manière, et ça sera le cas, on peut dire, eh bien, à partir de ce moment-là, vous passerez le truc du gardien du sommeil. Et vous irez de l'autre côté, tranquillos. Hein? Voilà, c'est comme au supermarché, tous les clients ne passent pas la porte du sas en même temps, parce que sinon, ça ne marcherait pas, quoi. Donc, il va y avoir un début. Pour moi, il ne faudra pas forcément attendre 50 ans. Hein? Ça ne veut pas dire que pour ça, il faut se droguer. Enfin, il faut se droguer, il faut, je dirais, se suicider lentement, mais sûrement, afin de pouvoir partir plus vite. Non, ce n'est pas une bonne idée, on va dire. Hein? Soyez ce que vous êtes, vibrez ce que vous êtes, et puis apportez toute la lumière que vous pouvez en étant ce que vous êtes. Et puis, quand ça sera pour vous le moment de partir, vous partirez, comme dirait l'autre, en paix, peinard, parce que vous aurez rempli votre contrat, peut-être même plus que tout ça, et puis on vous attendra de l'autre côté, quoi. Hein? Alors, être et faire. Alors, une question de Nati. Tu dis que la 4D est la dimension de l'être et pas du faire. Mais peux-tu préciser davantage, car tu es toujours toi aussi dans le faire, puisque tu nous rédiges des articles, tu montes des conférences, etc. J'ai un peu de mal à saisir la subtilité. Être dans son être-té signifie-t-il que nous n'avons plus d'activité? Comment faire la différence entre être dans le traité et la paresse? Alors, il y a une question de Raymond qui est pratiquement, je dirais, identique, à quelque chose près. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit dans le faire et être dans l'être, ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien. Non. Quand vous dites « je suis dans le faire », ah oui, bon, voilà, à 6 heures, il faut que j'aille chercher les gamines à l'école. À 6h30, il faut que je commence à préparer à manger. Parce qu'à 7h, il faut que je sois avec telle copine au bout du fil et on s'est donné rendez-vous. Parce qu'à 8h, j'ai un cours de tai chi, je ne sais pas quoi. Et puis à 10h, j'ai la vidéo machin truc qu'il faut que je suis parce que c'est vachement intéressant sur Arte. Ça, vous êtes dans le faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est votre agenda qui mène la barque. Ah oui, mais je dois faire le ménage, là, parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir à la maison, et puis je voudrais pas qu'il voit que c'est le merdier, donc il faut que je fasse le ménage. Ah oui, non, mais là, vraiment, parce que là, je vais avoir la honte, hein, donc, ça, c'est le faire. C'est simple. C'est-à-dire que vous vous imposez un truc parce que vous êtes dans le paraître. Vous voulez pas simplement montrer ce qui est. Vous allez me dire, quand vous invitez quelqu'un, vous voulez pas que ce soit le bordel. Mais je peux vous dire une chose, que si vous allez chez les pauvres, ils ne vont pas forcément ranger parce qu'ils n'ont pas grand-chose à ranger. Et puis, vous atterrirez chez eux comme ils sont. Et puis, ils n'auront pas fait nécessairement quelque chose. Parce qu'ils auront été dans leur simplicité et ils n'ont pas peur de montrer ce qu'ils sont et où ils vivent. Eh bien, quand on est dans l'être-té, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la vaisselle ni faire le ménage. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'être-té, vous faites. Mais c'est de votre être-té, c'est votre notion intérieure de timing qui va décréter les choses. Donc ça veut dire que si vous dites « Ah oui, moi demain je dois faire ça, et puis là j'ai aussi ça à faire, et puis ça », là vous êtes dans le faire. Si par contre le matin vous ouvrez les yeux, vous dites « Bon, j'ai quand même des petites choses à faire, on est bien d'accord, mais d'un seul coup, vos petites voix dit « faut faire ça là », vous laissez aller et vous le faites. Puis après vous dire « Mais il y a ça à faire ». Mais Vous allez vous sentir porté par la chose. Vous allez aller faire la chose. Parce que votre petite voix vous le demande de le faire. Et quand je dis la petite voix, c'est celle du cœur. Hein? C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas votre mental égo, parce que lui, il a décidé que... On est samedi, donc on va en boîte de nuit. Dimanche, on va à la messe. Non, ça, c'est le faire de 3D. Hein? Donc, j'espère que vous avez compris la différence. Faire, ça ne veut pas dire ne plus rien glander et ne rien faire. Être, c'est vous êtes dans le faire, entre guillemets, mais vous le faites en étant. Vous êtes d'abord et vous vous occupez ensuite. Et non l'inverse. En 3D, vous vous occupez, puis vous n'avez pas le temps d'être. Voilà pourquoi on est dans le paraître. On est à côté de l'être. Voilà. Donc si vous vous sentez attiré vers des choses à faire, faites-le. Donc moi, quand je dois écrire un article, quand je dis « je dois », j'ouvre les yeux le matin, on monte un certain nombre de choses, puis on dit « bon ben voilà, maintenant, tu te mets devant le clavier, puis tu y vas, quoi. » Bon, ben je dis « ok ». Puis je tape sur le clavier. Et puis 3h30 plus tard, 4h, je dis bon bah ça y est, c'est fait. Ok, c'est bon, c'est quoi la suite? Voilà. Mais s'il n'y avait pas un rendez-vous, par exemple, amener la voiture au garagiste à telle heure, parce que ça c'est de la 3D, c'est sûr que le reste du monde attendra. Hein. Je vais écrire l'article. Donc bien sûr, j'écris des articles. Enfin, j'écrivais, parce que là maintenant j'en écris plus, mais. Vous comprenez la différence, c'est-à-dire que vous êtes porté par l'intérieur, vous êtes porté par ce qui se passe en vous, par votre vibration, et donc vous n'allez pas vous violer. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas l'âme, de faire de la cuisine, vous ne le sentez absolument pas, vous êtes à côté de vos pompes, eh bien vous ne ferez pas la cuisine. Et si les autres affamés, ben, ils réclament, ben, qu'ils se démerdent, ils apprendront à faire la cuisine. Et vous inquiétez pas, généralement, ça va tout seul. Ça se passe bien. Donc, être dans le faire, c'est se violer. C'est violer notre être-té. C'est-à-dire, on fait un truc, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. On sent qu'on nous a forcé la main pour le faire. Et ça, c'est pas bon, ça. Par contre, si on ne vous a pas forcé, mais qu'on vous dit, tu sais, ça serait bien que tu fasses ça. Tu dis, ouais, bon, d'accord. Oh, je le sens bien, là. Ouais, d'accord. Et vous le faites. Et là, vous le faites en être-té. Alors, retour à l'intérieur. Une question d'Olivier. Tu as dit que le temps n'est plus à regarder à l'extérieur, mais à regarder dedans. J'aimerais bien que tu expliques un peu ce regarder dedans. Voulais-tu parler de méditation et vivre des choses par l'intériorité? Pour les méditations, faut s'y sentir poussé et ne pas planifier, non? Moi, ça fait 2 semaines que ça me dit rien du tout. Donc là, on revient encore dans le faire et dans l'être. Tu sens vraiment que tu as envie de méditer, tu médites. Tu le sens pas, ben tu le fais pas. Voilà, c'est-à-dire que tu ne sens pas l'obligation de le faire. Quand nous sommes en 3D, et puis qu'un gourou il a dit il faut que tu médites 2 fois par jour à telle heure et à telle heure, ou il faut que tous les soirs à 19h tu fasses ça, est-ce que vous êtes dans l'être-té? Ou est-ce que vous êtes dans le faire? Voilà pourquoi, personnellement, moi, j'arrive pas à me dire « Ah ben non, à 19h, tous les soirs, il faut que je fasse un truc. Hein. » Alors là, ça, c'est nada. Enfin, ça l'a été à une époque, mais ça ne l'est plus du tout. Là, ça joue plus. Parce que moi, je m'en fous de l'horloge. Si par contre, j'ai envie de poser mon cul, de fermer les yeux et puis de me barrer, ben, je pose mon cul, je ferme les yeux, je me barre. Puis c'est tout. Donc, c'est ça la différence. J'espère que vous comprenez l'importance de cette différence. C'est que en fait, quand vous êtes dans l'être-té, vous êtes en paix avec ce que vous faites. Vous n'avez pas de pression sur le dos. Vous savez qu'il y a des choses à faire. Oui, elles se feront, car le monde est parfait. Et de toute façon, vous ferez mieux quand vous êtes en paix que quand vous êtes sous pression. Alors bien sûr, au début, quand vous êtes sous pression, vous avez l'impression que les choses avancent et vous avancez. Oui. Sauf que les énergies, vous allez contre elles. Donc, en clair, vous vous écartez du chemin de l'écoute de votre petite voix, et là, vous allez payer, vous allez casquer. Alors après, bah, si vous arrivez des emmerdes, bah, allez pas vous plaindre auprès du bon Dieu. Voilà. Donc, pour revenir, donc le temps intérieur, c'est ça. C'est-à-dire que vous suivez ce qui se passe en vous. Ça, c'est le temps intérieur. Et vous allez à votre rythme. C'est tout. Donc c'est sûr que dans la 3D, on dit, ah, tu dois faire ça, tu as 2 heures pour le faire, et puis t'as pas 3 heures ou une journée, c'est sûr que ça devient de plus en plus pénible. Et voilà pourquoi, généralement, on quitte son boulot, en règle générale, parce qu'on ne peut plus tenir aucune pression. Parce que la pression extérieure nous est infernale. Par contre, quand ça vient de l'intérieur, il y a une certaine pression, d'une certaine manière, hein, mais c'est pas la même. C'est une pression que vous sentez que si vous suivez la musique, vous allez avoir des bonus, hein, comme on dit, quoi. Donc, vous le suivez. Et c'est normal puisque d'une certaine manière, c'est votre soi supérieur qui vous dit, il y a ça à faire, allez, vas-y, fais-le. Alors si sur le moment ça vous paraît idiot et con, c'est pas grave, faites-le. Et vous verrez que dans 3 jours, dans une semaine, dire putain, et non, ah, si j'avais su que si j'avais pas fait ça à ce moment-là, j'aurais eu telle emmerde. Eh ben, merci ma petite voix. Donc, c'est ça la différence. Hein? Alors, être canal, une question de Thomas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'être un canal? Quand on en a la possibilité, doit-on aller dans ce sens? Dans quel cas doit-on au contraire éviter de canaliser pour enfin se canaliser soi-même? Doit-on, avant cela, explorer les différents types de canalisation? Alors, canalisation, là aussi j'ai encore écrit là-dessus, c'est simplement des reprises de contact avec les différents plans d'existence. C'est-à-dire que j'ai dit que quand on était dans la 1, 2 et 3 au niveau de l'astral, 1, 2, 3D, on va dire, c'est du bas astral. Donc, vous pouvez bien sûr causer avec les morts. Ben, c'est une façon de causer, quoi. Hein? Vous pouvez causer aussi avec tous les trucs énergétiques qui, pour des raisons xyz, vous donnent du jus et vous croyez que c'est complètement gratos. Simplement, vous ne savez pas, vous avez mis un crédit en place avec les intérêts. Mais bon. Ensuite, bah, quand vous êtes en 3D, en niveau canalisation, au niveau de l'astral, bah, c'est sûr que là, vous causez avec Michael, Métatron et tous les autres, et ben, et vous dites, c'est mes potes, ils me causent, ils me disent des choses importantes et je les crois. Bon, bah ok, d'accord, tout va bien. Ensuite, bah, quand vous passez en 4D, 5D, 6D, bah, c'est à peu près du même acabit, mais avec une différence, c'est que bah, vous le faites d'abord pour vous-même, et puis, je dirais, la notion égotique est nettement plus amoindrie, on va dire, hein, puisque par définition, à partir de la 4D, 4, 5, 6, enfin, on va dire au niveau de l'astral, eh bien, normalement, votre mental égo doit être nettement moins présent. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus humble, beaucoup plus simple. Ok? Donc c'est pour cela que quand on passe, je dirais, à la couche 7, hein, vous êtes en communication directe avec votre soi supérieur. Donc on passe à travers tous ces canaux. Pensez pas que vous allez passer de celui qui n'avait pas le téléphone du tout à tout de suite passer en 7. Non, vous allez forcément traverser toutes les couches. Et donc, c'est normal. Donc, bah, si vous vous mettez à causer avec les morts ou avec des revenants, bah, vous inquiétez pas, simplement n'y restez pas. C'est-à-dire que certains, et c'est pour ça que quand je vais sur Facebook, par exemple, je vois médium ceci, médium cela, enfin, il y en a partout, hein, parce que je rappelle que 1, 2, 3, moi j'appelle ça les médiums, 4, 5, 6, j'appelle ça les canaux, et puis 7, bah, vous n'êtes ni médium ni canal, vous êtes vous-même. Voilà. Donc, l'objectif de l'ascension, c'est d'être vous-même, de communiquer directement avec votre soi supérieur. Et non plus ne communiquer avec des entités qui ne sont pas vous, parce que c'est toujours de la séparation, ou avec d'autres entités gérées du bas astral. Donc, le piège, hein, donc là, si je reviens avec le gardien du seuil, c'est ça, quoi. Le piège, c'est que, parce que d'un seul coup, vous commencez à causer avec la voisine qui est morte, que d'un seul coup, vous croyez avoir des aptitudes. Non, mais vous les avez. C'est sûr que vous les avez, ces aptitudes. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas rester à ce niveau-là, quoi. Donc, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, hein, c'est pas un problème. Simplement, laissez continuer la machine à se développer. Car à fur et à mesure que vous allez augmenter votre vibration personnelle, vous allez progressivement prendre de l'altitude comme la montgolfière. Donc, ben, de temps en temps, vous allez un jour peut-être vous rendre compte que vous êtes capable de guérir quelqu'un, enfin guérir, de lui apporter, on va dire, un pansement énergétique. Bon, ben, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est votre vie, que c'est votre travail et qu'il faudra y consacrer votre vie. Ensuite, eh bien, je veux dire, bon, bah, il y a tous les autres, tout ça, j'ai déjà écrit là-dessus, mais globalement, ce sont tous les pièges liés à l'ascension. Hein. Donc, il n'y a pas un canal à privilégier par rapport à d'autres, simplement, ce sont des marches d'escalier, et quand vous arrivez, on va dire, sur la septième marche, vous avez pu à vous emmerder avec les revenants, avec les anges, les archanges, avec tout ça, vous en foutez, puisque vous êtes en connexion avec vous-même. Et si vous êtes en connexion avec vous-même, vous êtes à l'endroit, je dirais, exact, à dire la chose exacte et à penser la chose exacte. C'est tout. Voilà. Donc, faut tout simplement pas s'arrêter dans l'escalier. Voilà. Donc, il n'y a pas à dire est-ce que je vais faire cette marche et puis pas l'autre. On s'en... Parce que ça, c'est de la démarche du mental ego. Non. Vous allez naturellement reconnecter tout le tableau de bord, donc il est normal que vous ayez accès à tout ça. Alors pour certains, bah, ça ira plus vite, quoi. Ça va être un peu comme dirait l'autre, ça ne sera pas des montgolfières, ça sera plutôt des fusées ou des avions de chasse, quoi. Ça veut dire qu'ils vont aller dans les hautes altitudes avant même d'un. Ils auront à peine décollé, ils seront déjà en haut, quoi. Donc ça dépend de chacun. Hein. Donc voilà, donc on peut canaliser effectivement des entités, mais vous allez découvrir. Et ça, je l'ai dit dans mes cours, c'est dans la version série 3, je crois, si ma mémoire est bonne, voire la 4, que de toute façon, arrivé à un certain stade, vous découvrirez que tout ce que vous mettiez sur des noms, c'est-à-dire, ah oui, tiens, j'ai causé avec Michael, en fait, dans la réalité, c'est vous-même. Vous causez avec vous-même. Simplement, vous plaquez le nom de quelqu'un. Parce que vous dites, c'est séparé de moi. Quand vous serez au niveau 7 et plus, eh bien, vous êtes séparé de personne, parce que vous savez que quelles que soient les facettes des choses que vous voyez, c'est toujours vous-même que vous voyez. Mais bon, ça vous fera, vous le comprendrez beaucoup mieux, à fur et à mesure que vous mettrez l'unité en vous. C'est-à-dire que plus vous fonctionnerez dans les lois de l'un, et plus vous découvrirez qu'en fait, tout ce que vous avez mis en séparation était tout simplement qu'une projection, qu'un mode de pensée de 3D. Quand vous serez en 4D, vous ne direz pas j'ai causé à un tel, j'ai causé à Marie, ou j'ai causé à Michael, vous ne direz pas ça. Vous direz non, j'ai causé avec mon soi supérieur, qui lui peut causer bien sûr avec des énergies féminines, des énergies masculines, provenant d'ailleurs, c'est clair. Mais d'après vous, est-ce que quand vous décrochez votre téléphone, c'est tout de suite vous allez avoir les extraterrestres au bout du fil? Non, ça va passer par France Télécom ou Free ou tout ce que vous voulez, mais il y aura un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est votre soi supérieur. Parce que vous êtes un tandem, vous êtes un couple. Votre soi supérieur est la partie féminine, et vous êtes la partie masculine. Et donc, on ne peut pas court-circuiter votre partie féminine. C'est un manque de respect de la loi de l'un. Donc, c'est pour ça que vous verrez toujours votre soi supérieur entre vous, soi inférieur, et éventuellement l'autre entité. Voilà. Mais votre soi supérieur est capable de vous dire, attention là, je te transmets un truc, mais ça vient d'ailleurs. Hein. Mais ça, vous le saurez. Ça se sent. Mais on ne vous dira pas, bon, bah, attends, j'ai un coup de fil de Michael, là, faut que je te le passe là. Non, non, il n'y aura pas de nom, il n'y a rien, parce que à ce niveau-là, rappelez-vous, quand vous êtes de l'autre côté, il n'y a pas de nom. Vous avez une sonorité, vous avez une musique, vous avez des couleurs, mais vous n'avez pas de nom, ça n'existe pas. C'est simplement dans notre mode de pensée 3D qu'on met des noms. Mais en fait, c'est l'étiquetage de la séparation. Rapport à l'argent. Une question de Laura. Concernant notre rapport à l'argent, je cite tes paroles. En 4D+, tu ne projettes même pas l'idée de dire « il faut que j'aille travailler ». C'est impossible car ce serait un manque de foi, une marche arrière colossale. Donc, en pensant comme ça, tu descends ta fréquence à un tel niveau que tu auras des emmerdes financières à n'en plus finir. Ça, c'est ce que j'ai dit. On dirait qu'il y a une contradiction dans ces paroles. On dirait, j'adore le conditionnel. Premièrement, t'as pas le goût de travailler, et si on y va, c'est là que les emmerdes financières commencent. Bien, alors, je vais expliquer ce que je voulais dire, parce qu'en fait, pour moi, c'est très simple. C'est que, quand on est en 4D+, le travail, ça n'existe plus. Donc, le « il faut que j'aille travailler pour gagner ma vie » n'existe plus. Puisque c'est ton être-té, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui va te dire ce que tu dois faire. Donc, il ne te dira pas « faut aller travailler pour gagner des sous ». Parce que s'il te dit ça, c'est que c'est ton mental ego. Et si c'est ton mental ego, bah, tu seras au niveau de la fréquence du mental ego. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la fréquence du mental ego? Eh bien, tu retombes dans la peur de ne pas avoir assez de sous pour payer ton loyer. En clair, tu retombes au niveau de la 3D en termes de vibration, et forcément, puisque c'est basé sur une peur, et que tu as quand même des capacités, entre guillemets, à pouvoir développer la fréquence, eh bien, tu vas amplifier la peur de manque de l'argent. Résultat, tu vas avoir des emmerdes financières à n'en pas finir. Donc, quand plus on monte en fréquence moyenne, on va dire, en 4D, plus en fait tu es capable d'amplifier ce que tu penses. En clair, si tu penses qu'il faut que tu ailles bosser pour gagner ta vie, bah tu vas avoir des emmerdes. Parce que tu dis clairement à ton soi supérieur, excuse-moi, mais j'ai pas confiance en toi, parce que là, tu me mènes en bateau, tu ne mènes pas exactement là où je pense, et je pense que tu es suffisamment, enfin, t'es con, quoi. Donc il faut vraiment que j'aille bosser, parce que sinon, comment je vais faire pour payer mon loyer? Donc globalement, on peut dire que quand une personne est en 4D, ou je dirais à une fréquence suffisante pour se maintenir en 4D, s'il tient son langage là, ça tient du divorce. C'est un langage de futur ex. Donc on ne peut pas, je dirais, avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le sens où on ne peut pas dire je suis en 4D, mais il faut que j'aille travailler quand même. Ça, c'est une période transitoire, mais qui ne peut pas durer longtemps. Et ça veut dire qu'on passe de la 3D+, à la 4D, mais on n'est pas en 4D+. Parce que quand on est en 4D+, je peux vous dire que la notion de travail, vous l'évacuez à la vitesse grand V. Parce que vous savez que ce travail extérieur imposé pour que vous soyez un esclave est totalement incompatible avec la notion même d'abondance de la source. Et donc, si vous n'avez pas la foi, eh ben, vous allez avoir les emmerdes. Voilà. Comme toute personne qui divorce, d'un seul coup, elle avait un toit, un lit, puis d'un seul coup, on lui dit, non, on ne va pas couper le lit en deux, ni la maison en deux, donc tu vas avoir des emmerdes tout le temps que ça se passe. Voilà, donc c'est un choix. Donc il n'y a pas de contradiction dans ce que je viens de dire par rapport à l'argent. Lieu de vie. Isabelle. Laurent, tu as évoqué le fait de favoriser le plus possible une autonomie énergétique sans plus trop compter sur la fée électricité. Peux-tu développer ? Je suis à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Une question de Tara aussi. Pourquoi je veux vivre en Corse dans un endroit paumé dans la forêt avec les sangliers et les chèvres et mon chat et les chiens et les vaches ? Pourquoi j'ai un besoin inexplicable de courir le matin embrasser le chêne du maquis? Pourquoi je fais tout cela comme si c'était ma seule raison de vie en ce moment? Enfin, je vis tout cela, tout simplement, mais je me demande pourquoi la Corse n'est pas un autre pays de mon imaginaire. Alors, je ne sais pas si Tara est en ligne, mais il faut savoir que Tara est italienne, sicilienne exactement, je ne veux pas être raciste, mais... Et que bon bah la Corse, parce que d'abord tu vis en France, donc la Corse c'est quand même très proche de la Sicile, entre guillemets, hein. Autant être le plus proche possible de là où tu es né, je le comprends, tout en étant nationalement en France, on est d'accord, premièrement. Et deuxièmement, actuellement tu vis à Paris, et c'est sûr que quand on vit à Paris, la seule chose qu'on a envie, c'est de prendre ses valoches et d'aller se mettre au contact de la nature à fond, parce qu'à Paris, s'il y a bien une chose qu'il n'y a pas, c'est bien le contact avec la nature. Donc, je vois dans ta question, Tara, qu'en fait, c'est relativement simple. Ton soi, en fait, ta partie interne, te dit tout simplement, écoute, prends tes baloches, va dans une atmosphère à peu près géologiquement compatible avec ce que tu es en termes d'ADN, puisque rappelez-vous que là où nous sommes nés, notre ADN a pris cette fréquence. Donc, eh bien, aller vivre en Corse plutôt qu'en Sicile, entre guillemets, c'est pratiquement les mêmes couches géologiques, et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas 10 000 km d'écart entre les deux, premièrement, et deuxièmement, eh bien, au lieu de bouffer du goudron, du métro et du gaz d'échappement, c'est sûr que te connecter aux chaînes du matin et d'être loin de toute cette surpopulation est une réaction absolument normale, je dirais, de ta part. Hein. Donc, je dirais que c'est presque l'opposé, enfin c'est l'opposé, donc fais-le, puis tu verras ce que ça fera. Et tu verras que le métro, le boulot et tout ce qu'il y a à côté, tu l'oublieras très très vite. Mais bon, s'il faut ça, hein, les vacances c'est fait pour ça. Hein. Alors pour revenir un petit peu à Isabelle, quand elle me dit sans plus trop compter sur la fée électricité, peux-tu développer? En fait, toute notre civilisation est basée sur l'électricité. S'il y a une panne d'électricité, c'est-à-dire vous imaginez que tout simplement un phénomène, on va dire, solaire, fait que tous les transformateurs sautent. Bon, c'est déjà arrivé hein, dans le passé. Et vous avez le pays complet ou le continent complet qui n'a plus d'électricité. Comment vous faites pour vivre? Vous allez voir que vous allez avoir de très 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 grosses difficultés. Parce que d'abord, vous commencerez déjà à plus avoir l'eau courante. Donc déjà plus d'eau courante, donc plus de douche. Moi aussi, plus de toilette, hein, plus de WC. Donc je peux vous dire qu'après le troisième passage, je ne sais plus comment vous allez faire pour envoyer le tout. Hein. Donc ça va être difficile. Hein. Alors pas question de dire je prends la voiture parce que la pompe à essence, ben, elle ne marchera pas non plus. Donc, quelque part, nous sommes totalement poings et pieds liés, on va dire, à la fée électricité. Donc, quelque part, ayez ça toujours un petit peu en arrière dans votre tête, en disant que si je peux privilégier certains trucs qui ne font pas appel à l'électricité, réfléchissons-y. Regardons. Voilà. Mais si vous faites dans le tout électrique, ben, écoutez, le jour où il y aura une panne, ben, vous serez le seul à vous en plaindre. Hein. Donc, si vous avez l'ouvre-boîte électrique, ben, ok. Alors, donc, par précaution, ben, comme dirait l'autre, il y a un ouvre-boîte qui ne serait pas électrique, comme ça, au moins, vous ne serez pas obligé de jouer avec le couteau. Hein. Bon, allez, passons à la maladie. Une question de Kirikou. Signification des dents de sagesse. Aucune idée, c'est pas grave. Pourquoi on dit dents de sagesse? Parce que simplement, théoriquement, ils apparaissent un peu plus tard que toutes les autres. Et il y en a qui en font une pâte à caisse, pas possible, parce que même à 50 ans, ils ont encore les dents de sagesse qui poussent, ils ne sont pas complètement sortis. Moi, j'en sais rien de tout ça, parce que, on va dire, à 18 ans, j'avais toutes mes dents de sagesse, donc je veux dire, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, je ne voudrais pas aller dans le détail par rapport à tout ça, quoi, hein, parce que j'en sais rien, en fait. Valérie, maladie, me concernant, une petite grippe par-ci, une petite infection par-là, faut-il les accepter, les vivre pour ce qu'elles sont, ne pas les juger, leur appliquer le « on s'en fout » légendaire, et où est-ce que ce sont des nettoyages, et où y a-t-il des leçons à tirer? Doit-on en comprendre quelque chose? Bah, par les temps qui courent, je vais répondre, en fait, à tout. Il faut effectivement les accepter, les vivre pour ce qu'elles sont, ne pas les juger, donc exactement, tu as tout compris, leur appliquer le « on s'en fout », c'est-à-dire que tu laisses faire, et est-ce que ce sont des nettoyages? Oui, ce sont des nettoyages. Et y a-t-il des leçons à en tirer? Non, aucune, parce que tout simplement, le nettoyage qui est en train de se faire, d'une certaine manière, des fois dépasse largement les compétences de notre compréhension. Donc, nous ne sommes... Quand l'ADN, enfin, quand notre corps, parce que... Quand notre corps réagit à quelque chose, c'est que notre ADN est en train, en fait, de se reconnecter à bien des endroits. Donc, en se reconnectant, comme dirait l'autre, ben, il crée, on va dire, du bouzou, du bordel quelque part. Donc, souvent, il y a des effets secondaires qui ne sont pas toujours prévus, mais qui sont là, quoi. Donc, il n'y a pas à se poser des questions pour comprendre ou à vouloir interpréter quoi que ce soit. Le temps de l'interprétation est passé. Avant, quand on était... Qu'en 3D, où il n'y avait pas les nouvelles énergies, ben c'est sûr que quand tu avais un problème, si tu avais un rhume ou ceci ou cela, tu pouvais dire, ouais, c'est à cause de ceci, parce que j'ai problème de cela, parce que dans mon enfance, que ceci et que cela. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'extérieur qui nous tombe sur le coin du nez et qui n'a plus rien à voir avec juste une 3D peinard dans laquelle ben, on marnait comme on pouvait. Donc, on peut dire que ces nouvelles énergies... par les particules adamantines et tout le bordel, la lumière authentique et tout ce que tu veux, eh bien, tu te fais bombarder, et comme dirait l'autre, ben, il se passe ce qui se passe, quoi. C'est comme s'il y avait, je dirais aujourd'hui, une bombe nucléaire qui éclatait, ben, tu te prends des rayons X, du gamma et tout ce que tu veux, et puis tu te dis, ben, pourquoi j'ai des boutons et pourquoi j'ai la thyroïde qui flanche? Ben, c'est pas un problème psychologique, c'est simplement une réaction biologique. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles énergies. Il y a un décapage, nettoyage, réorganisation, et on n'a pas à s'inquiéter d'où ça sort, d'où ça vient et pourquoi. Il y a juste à le regarder, on se dit, tiens, il y en a qui ont été nettoyer la chaufferie, là. Puis, ah, tiens, là, il y en a qui s'est fait la cave. Ah oui, ça, c'est le grenier, là, qui est en train de partir. Puis c'est tout. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure de ça, quoi. Hein. Donc, je peux vous dire que moi, personnellement, je n'essaye jamais de savoir pourquoi il y a quelque chose qui passe de... Enfin, qui, quand j'ai un petit ennui XYZ, bon, j'en ai, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas parfait, il y a encore du nettoyage à faire, mais... Quelque part, quand il y a des petits ennuis, bah, je regarde puis je me dis, est-ce que c'est pas éventuellement une connerie de ma part parce que je mange un truc et puis j'ai la diarrhée derrière, quoi. Donc si c'est le cas, bah, et puis que ça se répète à chaque fois que je le mange, je me dis, bon, bah, celui-là, il n'est plus dans la liste des achats. On est d'accord. Donc il y a des choses qu'on peut effectivement, je dirais, évacuer. C'est sûr que si je me mets à boire un verre d'alcool et que j'ai mal au crâne, je vais vite me rendre compte que c'est l'alcool qui me donne mal au crâne. Donc là, je sais que ce n'est pas les nouvelles énergies. Mais à part ce côté-là, quand il m'arrive des trucs, bah, je laisse passer et puis c'est tout, quoi. Alors, notre monde de 3D. Une question d'Anna. Suite à l'explosion des émissions diverses sur la fin du monde qui se multiplient à la télévision, nous avons pu découvrir les survivalistes qui préparent d'arrache-pied leur survie dans le monde post-apocalyptique. Je me demandais si ces personnes, de par leur attachement à leur existence en 3D, ne sont pas justement ces retardataires qui resteront en 3D, 3D+, après l'ascension, car ils ne seront pas préparés à passer à autre chose. Ou, au contraire, est-ce que le fait qu'ils commencent déjà à se préparer prouve qu'ils sont plus enclins à ascensionner que ceux qui n'y croient pas ou qui n'en ont rien à faire de la fin du monde? Ou cela n'a-t-il définitivement rien à voir? Donc, je vais commencer à répondre, parce qu'il y a une troisième question derrière. C'est vrai que les survivalistes, c'est tout simplement la peur mise en action. C'est-à-dire qu'il faut faire une différence entre l'anticipation. Si je vous dis, la semaine prochaine, le système financier se casse la gueule et pendant une semaine, les banques ils vont tous fermer parce qu'ils ne sauront plus comment faire pour faire quoi que ce soit, parce qu'ils seront quasiment HS. Donc, pendant ce temps-là, c'est sûr que si vous n'avez pas retiré un peu de bifton pour aller acheter vos salades ou vos baguettes à côté, vous allez avoir des soucis. Donc, vous pouvez avoir une anticipation, on va dire, minimaliste pour dire, voilà, j'ai effectivement, prévu le minima. Ça veut dire avoir les placards vides, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut remplir la cave. Pour moi, il y a donc un minima de sagesse entre guillemets pour avoir un roulement minima. Hein. Quand je dis un roulement minima, c'est-à-dire que vous dites, si pendant 15 jours je dois pas foutre le nez dehors, au moins que j'arrive à tenir pendant ces 15 jours. Parce que, comme je vous le disais, il peut y avoir des événements de tsunami, il peut y avoir des effets surprises, il peut y avoir des trucs qui vous tombent sur le dos, et c'est bien de dire j'ai la foi, mon moi soit supérieur me dira ce qu'il faut faire, etc. Mais si vous avez tous les placards vides, vous pourrez causer à votre soi supérieur si le magasin en bas il est fermé, les rideaux de fer sont tombés dessus, tout est fermé, vous pourrez toujours pleurer avec votre soi supérieur pour avoir un paquet de pâtes, hein, ça c'est clair. Donc je veux dire, il ne faut pas refaire un petit peu, vous savez, l'histoire avec Jésus, quand il était avec je ne sais plus qui, sur le bord de la falaise, Satan, le diable, enfin je ne sais plus qui lui disait, écoute, si tu es le fils de Dieu et tout, etc., saute de la falaise et tu ne mourras pas, quoi, parce que de toute façon, il viendra te sauver. Et là, Jésus l'a regardé et dit, écoute, non, je ne vais pas sauter parce que je ne suis pas là pour éprouver, pour voir si effectivement mon père va faire quelque chose pour moi ou pas. Non, je suis désolé. Donc, ne tombez pas dans le travers, effectivement, de croire que parce que vous êtes en 4D, voire en 4D+, que soudainement, parce que vous avez cette vibration-là, vous n'aurez plus aucun ennui et que, de toute façon, si vous avez besoin de faire votre plein, eh bien, vous trouverez la station qui marche encore avec de l'essence. C'est pas évident. Donc, je dirais qu'il faut un minima d'anticipation. C'est-à-dire que, globalement, n'ayez pas les placards vides. Et je vous dis, remplissez pas la cave quand même. Hein. Donc, vous avez un petit stock, juste ce qu'il faut pour tenir une semaine ou 15 jours, tranquille. Hein. Alors, je ne parle pas pour les salades ou d'autres choses qui ne tiennent pas la route, mais ça, si vous n'en avez pas pendant une semaine ou 15 jours, c'est pas grave, hein, vous en passerez. Mais ayez un minima syndical. Mais les survivalistes, c'est pas du minima syndical. C'est carrément, c'est la guerre nucléaire, il faudra qu'on tienne 2 ans, quoi. Non. Ça, c'est de la peur à l'état brut, c'est de la 3D à l'état brut. Et effectivement, tous ces petits gars-là, on va tous les retrouver, grosso modo, en 3D unifié. C'est évident. Hein, c'est... parce que quand on est à ce stade de la peur, parce que c'est ça, hein, parce que quand on est survivaliste, style américain, on n'y va pas seulement avec les bottes de conserve. Hein. On met le flingue à côté parce qu'on va se dire, ouais, les autres affamés vont nous tomber dessus, donc il va falloir qu'on se défende. Hein. Donc, quelque part, le survivaliste, pour moi, est quelqu'un encore de très basique qui reste en 3D. Hein, donc, parce qu'il est basé sur la peur du manque. Mais, quand on est en 4D ou 4D+, ça n'empêche pas quand même d'avoir quelques bottes de conserve ou d'avoir 3 bricoles en se disant s'il y a une coupure d'électricité pendant une semaine, comment je vais faire? C'est tout. Donc, mais pas pour 1 an ou 2 ans, on est d'accord. Voilà. Alors, la troisième question, les gouvernements, sociétés secrètes, extraterrestres, mal intentionnés, etc., pourraient-ils, avec une technologie adéquate et dépassant nos connaissances, bloquer le processus d'ascension de la Terre en altérant la grille énergétique, par exemple, pour continuer à nous garder comme esclaves du système mondial? Ça, c'est fini, c'est définitivement fini, comme dire l'autre. Donc, ça, c'est encore une peur qu'il faut évacuer complètement. C'est-à-dire que nos frères extraterrestres, entre guillemets, ont cet objectif, c'est effectivement de nettoyer, c'est-à-dire de bloquer, on va dire, toutes les possibilités de ces gens-là, en fait. Hein? Donc c'est en cours. Bien sûr, c'est secret, hein, forcément. Je ne veux pas dire que c'est top défense, mais c'est quasiment ça. Donc, de ce côté-là, les choses avancent. C'est pas notre taf, c'est pas notre boulot. On n'a rien à faire par rapport à tout ça, sauf à se dire, je suis en paix, je suis ce que je suis, et je vais suivre mon intériorité, hein, et la vivre dans cette icité. À partir de là, le reste ne vous appartient pas. Une question de Mivong. Au vu de ce qui se passe et de la tournure des événements, j'ai comme la vague impression qu'on va avoir à gérer des situations sans doute violentes. Je dirais, c'est évident. Donc j'aimerais avoir quelques conseils pour faire face, surtout si une de mes filles est en danger. Alors là, c'est encore. Non, là, vous voyez, c'est encore la peur. Alors oui, alors on va avoir des problèmes, on va avoir des dangers, donc il va y avoir. Ah oui, mais si ça touche ma fille. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce soit votre fille ou quelqu'un d'autre. Si elle est adulte, entre guillemets, qu'elle vit quelque part ailleurs, c'est plus votre problème. C'est son problème. C'est-à-dire que si elle n'a pas le niveau de conscience suffisant pour savoir qu'il faut qu'elle reste chez elle et qu'il faut surtout qu'elle n'aille pas, je dirais, foutre le nez dehors, bah, ça sera déjà une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas vous dire, je vais devenir Rambo et si quelqu'un touche à ma fille, je tue tout le monde, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas possible. Donc, il va y avoir effectivement de la violence. Déjà, quand une usine ferme, il y a de la violence. Alors imaginez quand les banquiers vont fermer ou autre chose. Ou les magasins ou les supermarchés. Donc, il y aura de la violence, oui. Donc, j'ai écrit aussi là-dessus. Et je sais que beaucoup de gens, enfin un certain nombre, disaient que je racontais des conneries et qu'il fallait aller au front. Ben, vous verrez que si vous êtes effectivement en paix et restez en paix, vous allez. D'abord, ne pas alimenter cette violence en ne lui accordant d'abord aucune attention, premièrement, et deuxièmement, vous ne serez pas happé par cette violence parce que vous aurez une vibration qui lui sera supérieure. Et pour cela, ben, il ne va pas falloir se mettre au milieu de la route, de la route en disant je vais arrêter la meute là parce que moi j'ai une haute vibration et ils vont m'écouter. Non, non, on peut dire que grosso modo, toute foule qui est violente, vous ne pourrez jamais l'arrêter. Donc, vous ne prenez pas pour zéro ou quoi que ce soit. Restez peinards à l'écart de tout ça. Attendez qu'ils aient cassé toutes les vitrines, qu'ils aient tout fait. Puis, quand ils auront tout cassé, puis qu'il n'y aura plus rien à bouffer, eh bien, ils verront que la colère et que la méchanceté, que l'expression, je dirais, d'émotions violentes n'a jamais résolu aucun problème, mais n'a fait en fait que les renforcer. Mais ça fait partie de la 3D. Je suis désolé, mais ça fait partie de la 3D. En 4D, hein, quand on est dans le don inconditionnel, la première chose que l'on apprend, c'est le pardon. Ça veut dire, écoute, tu viens de me baffer, tu viens de me vider mon porte-monnaie, tu viens de me faire, bon bah je te pardonne, point barre. C'est-à-dire, je coupe court à toute réaction. Donc, si vous êtes effectivement en 4D, bah, vous regarderez la violence pour ce qu'elle est, et dire, bah écoute, c'est comme un tsunami, je vais pas rester sur la plage pour faire plaisir à tout le monde, je me casse. Quand la mer se sera, enfin, ça sera tombé, puis qu'elle sera remuée à son niveau normal, ben, je reviendrai sur la plage. Voilà. Voilà. Si vous faites autrement, ben, on ne pourra pas parler vraiment de sagesse. Alors, Florence, c'est de plus en plus dur d'imposer des règles, des doctrines aux enfants, en sachant ce que l'on sait. À chaque fois, tout mon être réagit. Je ne parle pas de mon ego, mais de mon cœur. Je suis déconnecté des règles imposées par la 3D. Alors comment concilier tout cela? Le laisser faire? Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en 4D, 4D+, vous sentez véritablement quelles sont la pression que vous pouvez mettre sur vos enfants et par vos convictions, enfin vos convictions. Parce que ben, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils apprennent les maths, il faut. Et je peux vous dire que c'est effectivement un déchirement pour beaucoup de mères de famille. Bon, les pères, ils en sont un peu moins, eux. Mais les mères de famille, c'est un déchirement pour eux parce que effectivement, ils savent que leurs enfants vont souffrir à apprendre des conneries qui leur serviront à rien. Je peux vous dire qu'à part lire et écrire, le reste ne sert pas à grand-chose. Mais bon, là encore, c'est, je dirais, au libre arbitre de chacun. Et malheureusement, il y a des lois qui disent que vous pouvez pas. Il y a certaines lois qui disent que vous pouvez pas. Vous devez envoyer vos enfants à l'école, que ceci, que ceci, que ceci, que cela. Et écoutez, faites au mieux, comme dirait l'autre, rusez avec le système au mieux. Mais sachez que de toute façon, vos enfants, d'une manière ou d'une autre, vont tirer avantage de tout ce qu'ils peuvent. Donc, s'ils peuvent tirer au flanc, ils vont tirer au flanc. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que des fois on pourrait dire oui, mais c'est un enfant cristal, faut que je le laisse évoluer à sa manière, etc. Mais quelque part, si vous lui mettez quand même pas quelques limites, il va vous bouffer tout cru et vous serez la nounouche de service. Donc il y a, comme dirait l'autre, à avoir un certain discernement. C'est pas facile, c'est loin d'être évident, parce que les enfants, d'une manière ou d'une autre, même s'ils ont une fréquence, enfin, une capacité de connexion, on va dire, supérieure à nous, de base, d'une certaine manière, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de profiter du système. Donc, s'ils peuvent avoir le paquet de bonbons, et je peux vous dire, quand je vois des fois au supermarché, des gamins, 3 ans, 4 ans, qui posent leur queue au milieu du truc et qui sont prêts à chialer comme des madeleines pour qu'on leur achète un paquet de bonbons ou avoir la canette de Coca-Cola, je peux vous dire que là, moi, il n'y aurait pas photo, hein. Il peut chialer, il peut crever sur place, hein. Mais il l'aura pas son truc, hein. Parce que vous êtes là pour les protéger physiquement. Donc tant que ça met en cause leur intégrité physique, je peux vous dire, je serai intraitable. Par contre, sur les autres domaines, il n'y a pas de problème, c'est à voir et à discuter, enfin à discuter, à ressentir. Mais sur le plan physique, vous êtes là pour, je dirais, les aider à garder leur intégrité physique. Parce que si vous dites, ah non, 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 je le laisse faire, oui, il veut ça, alors je vais lui donner, parce que de toute façon, c'est un être supérieur, etc., je peux vous dire qu'à 18 ans, vous aurez un obèse avec tous les problèmes, pas possible, quoi. Donc, c'est pas lui rendre service. Donc, la seule chose dont un enfant n'est pas forcément conscient, c'est comment, je dirais, faire pour garder la santé. Quand je dis garder la santé, c'est-à-dire avoir la possibilité d'arriver à l'âge adulte physiquement. Puis après, mentalement, c'est son problème. Mais physiquement, aucun compromis. Enfin, c'est mon point de vue, hein, je répète, aucun compromis. Et après, il vous dira merci. Quand il sera plus grand. Anna, comment pas mal, comme pas mal des participants sur ce site, j'ai moi aussi été piqué par la mouche nettoyage par le vide depuis quelques années. Et de plus en plus intensément. Seulement, j'ai un problème, je pense à mes deux enfants, 19 ans et 5 ans. Peut-être qu'ils ne seront pas contents du tout de découvrir que j'ai mis aux ordures les rares photos de ma défunte famille, de moi quand j'étais petite, ado, etc. Je ressens personnellement l'inutilité de conserver des traces d'un passé qui n'existe plus, mais je me dis que eux en auront peut-être besoin de ces traces pour se construire, pour se repérer dans leur histoire familiale, généalogique, etc. Si je jette tout, je ne leur laisse pas le choix. Vu que je n'ai plus de famille, donc pas d'autres sources de renseignements pour eux. Comment faire? C'est un dilemme. Le dilemme, pour moi, il n'existe pas. C'est-à-dire que, grosso modo, vos enfants n'ont pas à se construire par rapport à des parents, des arrière-parents, et avec une généalogie et tout ça, parce que tout ça, ce sont des réflexes de 3D. Quand on passe en 4D, on se fout littéralement de ça. Et quand on se fout littéralement de ça, je peux vous dire que, en même mieux, ça les libère quelque part parce qu'ils n'ont pas à se rattacher à des trucs. Vous savez, moi, de mes grands-parents, je connais pratiquement rien. Je peux vous dire que je dois avoir, et encore, je pense qu'elle n'est plus dans mes valises actuellement, c'était une photo de mariage de mon grand-père paternel. C'était la seule photo que j'avais de lui, d'ailleurs. Et parce que de l'autre côté, de l'autre grand-père et grand-mère, rien, que dalle, aucune photo, rien. Donc, ça m'a pas gêné d'être ce que je suis. Donc, j'ai pas été gêné par le manque de photos. D'ailleurs, mes parents avaient quasiment pas de photos, hein, sauf photos de mariage. Et encore, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, bon, c'est bien, c'est ce qu'ils étaient à cette époque-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils sont maintenant, point barre. Maintenant qu'ils sont morts, j'ai absolument aucune photo de quiconque. Même de moi, c'est pour ça que même l'équipe au sol a un peu de difficulté à choper des photos pour agrémenter, on va dire, mes vidéos ou autre chose. Parce que, en fait, je me fous littéralement, mais quand je dis littéralement, de tout ça. Alors, garder des photos pour la postérité, alors, ça c'est du 3D. Mais pour dire et penser que les enfants en ont besoin pour grandir, pour moi, c'est du réflexe de 3D, tout simplement. Donc, à abandonner, tout simplement. De toute façon, tout ça, ils n'en ont absolument pas besoin. Car quand vous comprenez ce que vous êtes en tant qu'esprit directeur et étincelle d'esprit, vous n'en avez vraiment rien à battre de ce qu'il y avait avant. Vraiment. Mais bon.